partager le savoir. Une émission de la rédaction de Canal Academy. On retrouve Axel Maugé.
Notre collaborateur Axel Maugé est l'auteur d'un essai intitulé « Les élites argentines et la France », un essai publié par les éditions de L'Harmattan. Pour Canal Academy, il propose une série de portraits, merveilleux francophiles argentins. Il évoque ici l'un de ces merveilleux francophiles argentins, l'esthète Francisco Bullrich. Voici la seconde émission. La première est disponible dans notre médiathèque.
Indépendante grâce à sa fortune, appréciée par une petite élite pour son courage et ses idées libérales, Victoria Ocampo n'en fut pas moins souvent attaquée. Nul doute qu'elle gênait. Par exemple, de 1932 à 1944, la gauche lui reprocha de ne pas s'engager en faveur des prolétaires. Les hostilités reprirent de plus belle lorsque la maison d'édition Sûre osa éditer le voyage en URSS d'André Gide. Dès lors, pour la gauche, Victoria devint une réactionnaire. De son côté, la droite nationaliste l'attaquait fréquemment, trouvant que Sûre s'intéressait trop aux écrivains du monde entier, ceux des États-Unis, de France, d'Angleterre, etc. Cette droite obscurantiste ignorait que la revue Sûre publiait de nombreux articles en langue espagnole d'auteurs comme Amado Alonso, José Ortega y Gasset, Ramón Gómez de la Serna, Alfonso Reyes, Octavio Paz, Pedro Enríquez ou Rena, ainsi que de brillants écrivains argentins Eduardo Malea, Jorge Luis Borges, Ezequiel Martínez Estrada, Cazares, Manuel Mujica, Rosé Bianco, Manuel Pérou, pour ne citer que les plus fameux. Il est essentiel de rappeler ici que la société urbaine argentine était violemment divisée pendant la Seconde Guerre mondiale, les uns appuyaient les fascismes, les autres les démocraties. Et comme Victoria Ocampo ne cachait pas son appui au camp allié, cela ne plut guère au gouvernement militaire nationaliste anti-américain qui dirigea l'Argentine de 1943 à 1945. Dans les années 50, le général Perón alla même jusqu'à incarcérer Victoria dans la prison pour femmes El Buen Pastor, quel joli nom, l'accusant à tort d'avoir participé à un attentat. Cette décision odieuse discrédita un peu plus le régime du général Perón. En revanche, la revue Sûre ne fut jamais censurée. L'avis de Victoria Ocampo et, avez-vous pu le constater en écoutant l'émission que nous lui avons déjà consacrée, un véritable roman. Ainsi que me l'a indiqué Francisco Bullrich dans une de ses lettres, de nombreuses explications de cette existence étonnante se retrouvent au fil des pages des 6 tomes intitulés « Autobiografías », œuvre de la belle Argentine. Comme lui, j'ai rêvé de faire parvenir ici d'autres voiliers, d'autres armes pour d'autres conquêtes. Vivant mes rêves, j'ai voulu justifier ma vie, je dirais même me la faire pardonner. Selon mon hôte, ce passage éclaire un aspect fondamental de l'existence de cette femme libre. Francisco Bullrich souligne en effet qu'à partir de 1940, l'Argentine officielle a toujours dénigré l'oligarchie des grands propriétaires terriens, la considérant comme une classe superflue, une classe sensue, traître aux intérêts nationaux. Nul doute que la crise économique de 1929 avait mis à nu les inconvénients d'une économie tournée essentiellement vers l'exportation primaire. Or, Victoria Ocampo, qui appartenait à ce milieu, en connaissait les limites. C'est probablement à cause de cela, pense Francisco Bullrich, qu'elle a écrit dans son Autobiographias, je dirais même me la faire pardonner. Ses détracteurs oublient qu'avec bon nombre d'autres personnalités issues de cette classe privilégiée, elle a eu le courage, d'une part, d'appuyer de magnifiques aventures culturelles et d'autre part, de fonder une revue et une maison d'édition reconnues mondialement. Outre l'œuvre accomplie par Victoria Ocampo, on ne saurait taire le fait que Elena Elizalde de Sancinera fonda en 1924 Amigos del Arte, c'est-à-dire les amis de l'art. Ignacio Pirovano protégea Jean-Michel Franck, lequel avait échappé à la Gestapo. Il encouragea à travailler avec lui à la revue Conte que Leonor Hirsch de Caraballo créa Amigos de la Musica, donc les amis de la musique, et que Mercedes Santamarina offrit sa collection au Musée des Beaux-Arts et l'on pourrait citer encore plusieurs autres membres généreux de ce milieu soi-disant superflu. Si l'on assistait au chant du cygne d'une classe sociale, cette classe n'avait cependant rien d'indigne. Bien au contraire, lorsque le général Péron est renversé en 1955, l'oligarchie terrienne n'a en réalité plus guère de pouvoir. Victorio Campo a d'ailleurs perdu à cette époque une partie considérable de ses rentes. Pour la stimuler, il lui reste heureusement la revue Sûre qu'elle défendra contre vents et marées. La belle Argentine contribua encore à la création du Fonds national des arts en 1958. Ce fonds eut un impact considérable au moins jusqu'en 1972. Après une certaine éclipse, il reprend actuellement de la vigueur grâce à sa nouvelle présidente, Madame Amalita Lacroze de Fortabat, la femme la plus riche d'Amérique du Sud, dit-on. Vivant donc depuis toujours dans un milieu passionné par les arts, la culture française et les échanges culturels, mon hôte m'invite à visiter sa bibliothèque dans laquelle prédominent les livres français. Ceux écrits en espagnol n'arrivent qu'en deuxième position et je suis à Buenos Aires, cœur vivace de l'Argentine, à des milliers de kilomètres de la France. L'un des auteurs préférés de Francisco Bullrich s'appelle Racine, dont il connaît naturellement une partie de l'œuvre. « Que le jour commence, que le jour finisse », récite-t-il avec passion devant moi. En vérité, cet homme sensible travaille à enrichir sa mémoire depuis longtemps. C'est nul autre que Louis Jouvet, entendu plus d'une fois dans les années 1930 et 1940 au cours des tournées triomphales de la Comédie française, qui l'a incité à se perfectionner. Je me surprends à rêver un instant en entendant mon hôte prononcer le nom du prestigieux acteur. Quelle belle figure inoubliable que celle de Louis Jouvet. Comme nous évoquons cette période ancienne, Francisco Bullrich n'oublie rien de ce que la France a souffert à partir de 1940. D'une voix très amicale, il me souffle à l'instant accablé. Je me souviens du dimanche 3 septembre 1939 comme si c'était hier. Il est vrai que grâce à la mémoire, le temps n'a pas de prise sur l'être humain. Aussi, lorsqu'il me confie que son auteur préféré s'appelle Marcel Proust, alors je comprends de mieux en mieux la dimension du personnage qui se trouve devant moi. Grâce à lui et à ses amis, Proust habite Buenos Aires. Il aurait adoré cette ville, surtout la nuit. Je parle de Proust. Là, une fois plongé dans l'espace nocturne, Buenos Aires reprend sa respiration, son véritable rythme. Certains soirs, il suffit de se promener dans ses rues les plus magiques pour entendre battre les secrètes pulsations de la cité. Il me revient soudain à l'esprit qu'un ami de Francisco Bullrich l'avait appelé devant moi le mémorieux. Mais il se défend d'être le personnage créé par Borges qui se nommait en vérité Funes el Memorioso. Considérant que ce personnage ne prenait pas le temps de vivre, sorte d'homme pressé que ne renierait peut-être pas Paul Morand, il ne se reconnaît pas dans cette figure. Tandis qu'il continue de dévoiler son jardin littéraire secret, je ne suis pas étonné que cet homme de mémoire apprécie à sa juste valeur le Malraux de la condition humaine, devenu par la suite ministre de la Culture du général de Gaulle. Pour mon hôte, Malraux était avant tout un mage féru d'art, passionné d'architecture, de peinture et de sculpture, au point même d'avoir essayé d'en subtiliser au Cambodge. Vous l'avez compris, l'art dirige la vie de Francisco Bullrich. Ce diplômé de la faculté d'architecture de Buenos Aires admire Le Corbusier, un Suisse que tout le monde croit français, qui a eu de l'influence dans les milieux artistiques argentins. Il faut savoir que Le Corbusier est venu la première fois en 1929 à Buenos Aires. Victorio Campo, qui avait lu plusieurs œuvres du chef de file de l'avant-garde européenne, notamment Vers une architecture, 1923, l'art décoratif d'aujourd'hui, et l'art décoratif aujourd'hui, Urbanis, 1925, l'attendait de pied ferme. Il paraît que le maître, ayant rencontré Joséphine Baker sur le bateau, n'a pas arrêté de faire des croquis et de noter ses impressions de voyage. À cette époque, Le Corbusier traite la maison comme un avion ou un paquebot. Utilisant le béton, matériau nouveau, pour construire son ossature, c'est avec un vif intérêt qu'il viendra visiter la maison que Victoria s'est faite construire dans le quartier de Palermo Chico, en s'inspirant des principes révolutionnaires du Bauhaus, école allemande, et bien sûr de ceux de son invité de marque. Après avoir exploré la demeure de Victoria, il rendit hommage à son hôtesse. À part elle, quasiment personne dans la capitale portaigne, cette année-là, ne se soucie de comprendre son génie moderne, je parle bien sûr de Le Corbusier. Il passe même pour un architecte fou. Le Corbusier quittera le pays de la Pampa sans avoir obtenu la moindre commande, mais n'en gardera, semble-t-il, pas la moindre amertume. Rétrospectivement parlant, son influence a été forte non seulement en Argentine, mais encore au Brésil et au Chili. En Argentine, il ne construira cependant qu'une seule maison, située à La Plata. Un médecin du nom de M. Curuche en est aujourd'hui l'heureux propriétaire. Ce que d'aucuns ignorent, c'est que profitant d'un de ses séjours, il eut l'audace d'établir, je parle toujours de Le Corbusier, il eut l'audace d'établir le plan régulateur de Buenos Aires, du moins dans ses grandes lignes. Plus tard, certains de ses conseils furent appliqués. Mon hôte me révèle que Le Corbusier a également préparé un projet en vue de réaliser un appartement pour Victoria Ocampo. Francisco Bullrich possède le dessin original dans ses cartons. Il se réjouit qu'au fil des années, de nombreux architectes argentins tels que Jorge Ferrari Ardoy, Antonio Bonet et Juan Corchan soient passés par la revue de Sèvres à Paris afin d'étudier la modernité. Jusqu'en 1952, la revue d'architecture, une revue française réputée, était la plus lue à Buenos Aires, souligne-t-il. Sa propre découverte de la France remonte, elle, à 1954. Il se souvient qu'il trouve le Paris de l'époque extraordinaire. Sorti intact ou presque de la guerre, la capitale française n'avait pas encore été ravalée, si bien qu'il avait l'impression de parcourir la ville comme s'il visionnait un film en noir et blanc avant que la couleur n'apparaisse. L'atmosphère était proche de celle évoquée dans la plupart des films de Marcel Carné. Le Paris de 1954 n'étant absolument pas surpeuplé, la circulation restait raisonnable. Un film d'Éric Rohmer, Le Signe du Lion, tourné en 1959, évoque à merveille ce Paris tranquille, villageois, qui faisait l'enchantement des étrangers. Francisco Bullrich ne pardonne pas à ceux qui ont construit la tour Montparnasse d'avoir troublé la sérénité des Invalides. La modernité ne signifie pas toujours l'excellence, me confie-t-il. La modernité, ce n'est pas non plus forcément l'abondance. Suis-je en train de penser à mon tour en m'adressant à lui qui souffre aujourd'hui de voir son pays manquer de moyens financiers? Il est en effet attristé de constater que son projet de bibliothèque nationale n'est pas encore terminé. On peut cependant déjà observer les structures de l'immeuble posé sur la turbulente Avenida Libertador au coin de la rue Aguirre. Cet homme de passion, auteur de plusieurs livres importants tels que Architectura Argentina Contemporanea, New Direction in Latin American Architecture et Architectura Latinoamericana, est obligé de me raccompagner car ce soir, l'on fête l'anniversaire de sa fille. Après avoir échangé avec lui une chaleureuse poignée de main, je retrouve la tranquillité de ce quartier de Palermo Chico où habitent bon nombre d'Argentins, amis de l'art, de la France et de l'humanité.